Encyclique par le Père Philippe à Saint-Joseph le 10 juin 1987. Essayons de comprendre les liens difficiles du reste à préciser. Mais si tu cherches au moins quelques axes au point de vue philosophique pour le développement, non plus au sens strict de l'éducation. L'éducation est premièrement familiale. C'est un prolongement de la procréation. Et la procréation relève du choix de l'époux et de l'épouse. Donc c'est quelque chose de personnel dans ce qu'il a de plus fort. L'État peut donner des conseils, mais pas plus. L'État peut donner des conseils, on veut bien. Si vous n'ayez pas trop d'enfants, par exemple, faites attention à certaines crises, mais elle ne peut pas établir le nombre des enfants. Par exemple, comme en Chine, si vous voulez, ce que fait l'État de dire un enfant seulement, c'est une usurpation. C'est quelque chose qui est contraire à la nature. L'État peut dire, étant donné les conditions, faites attention, n'ayez pas trop d'enfants, et ainsi de suite. Mais elle touche là quelque chose qui est tout à fait personnel. Le choix de l'amour, de l'époux et de l'épouse. Et dans ce choix, tout le problème de la procréation qui est lié à ce choix. Et dans le prolongement de la procréation, l'éducation. L'éducation qui tend à faire des personnes humaines capables de choisir, d'orienter leur vie, capables de ce choix personnel qui est l'orientation de sa vie, donc de nouer la personne humaine. L'éducation est tout entière ordonnée vers le point de vue de la personne. Insistons beaucoup. C'est pas la nature, c'est la personne qu'on regarde. Et le développement de la personne dans sa complexité, son unité. Alors, nous avions vu le rôle de la mère, le rôle du père. Il est évident que le rôle du père, c'est ce que c'est que l'autorité. On comprend l'autorité en bâtissant, c'est-à-dire par l'obéissance. Il faut coopérer avec l'autorité pour avoir une connaissance vraie de l'autorité. Parce que l'autorité ne peut pas se connaître uniquement de façon spéculative, ça se connaît de façon pratique, puisque l'autorité s'exerce avec la prudence. Et s'exerce sans la prudence. On ne peut pas exercer l'autorité sans la prudence. Et c'est à travers le point de vue de la prudence qu'on découvre ce que c'est que l'autorité. Et donc c'est par l'obéissance qu'on découvre ce que c'est que l'autorité. Or, le père représente en premier lieu l'autorité. La mère a aussi l'autorité, mais une autorité maternelle qui est moins tranchée. Tandis que l'autorité du père, normalement, je ne dis pas toujours, parce que quelquefois vous avez des pères qui sont comme des mères, et des mères qui sont comme des pères. Ça existe, n'est-ce pas ? Alors ça se dit selon certaines expressions qu'on connaît bien, qui montrent bien qui a l'autorité dans le ménage. L'autorité non seulement au point de vue économique, mais aussi au point de vue d'éducation. Il y a une coopération qui doit se faire entre les deux. Une coopération très importante pour que l'enfant puisse découvrir ce qu'est la personne. D'une certaine manière, on découvre, voyez, génétiquement, en premier lieu, ce qu'est la personne humaine avant de découvrir sa nature. On découvre la personne parfaitement qu'après avoir découvert toute l'analyse philosophique et donc la nature. Mais génétiquement, la personne est découverte en premier lieu de façon imparfaite. Voyez, quand vous éduquez quelqu'un, vous l'éduquez en tant que c'est une personne humaine qui a en lui des quantités de virtualité. C'est ces virtualités que vous regardez. Donc l'éducation regarde la personne et le développement de la personne. Et dans la personne, il y a l'exigence de l'intelligence. Donc à l'intérieur de l'éducation, il y a instruire. L'instruction, c'est le développement de l'intelligence. Le développement de l'intelligence, nous le savons aujourd'hui, et les psychologues le notent avec beaucoup de force. Le développement de l'intelligence dépend d'un certain milieu affectif. Et on sait que certains états socialistes ou marxistes ont fait la difficile épreuve ou la dure épreuve de voir que le point de vue de la famille n'existait plus, il y avait un ralentissement dans le développement intellectuel. Comme ils ne sont sensibles qu'à l'efficacité, ils ont été obligés de revenir contre leurs propres principes. Ce qui devrait leur faire comprendre que le socialisme pris dans son intégrité, je dis pas, il y a des formes nuancées du socialisme, eh bien, un socialisme nuancé, c'est un socialisme rose. Alors à ce moment-là, il y a beaucoup d'eau dans le vin rouge et qui fait que tout à fait différent. C'est plus du tout aussi net que une position marxiste. Il faut faire attention parce que les mots disent des tas de choses qui ne correspondent pas toujours à la réalité. Mais dans un point de vue marxiste, dans un point de vue d'idéologie marxiste, c'est évident que la société est en première par rapport à l'individu. Il devrait, s'ils étaient suffisamment intelligents, comprendre que l'échec fait du côté de l'éducation nationale, prise comme un absolu, devrait remettre tout en question. Parce que c'est le propre d'une idéologie, c'est d'être un système. Et donc, s'il y a un petit point qui est faussé, tout est faussé. Je crois que c'est toujours sur ce point-là qu'on doit attaquer le socialisme. Le socialisme, le marxisme, le socialisme marxiste ou marxisant. C'est de voir que, de fait, là, il y a un échec qu'ils ont éprouvé. Ça a été éprouvé doublement. En Russie, ça a été éprouvé dans l'État socialiste d'Israël. Très intéressant de voir ça. Ça, je crois que c'est capital de comprendre ça et de l'analyser. Et là, la psychologie nous montre avec beaucoup de force que, de fait, l'enfant, pour développer son intelligence, a besoin de l'affectivité. Le premier développement de l'intelligence, c'est le sourire. Le sourire naît dans un climat affectif. Le sourire n'est pas premièrement pour le maître d'école. C'est sûr. Maître d'école, entre parenthèses, le sourire. L'hypoké du sourire. La vie, entre parenthèses. Le sourire, c'est pour les parents. C'est pour la mère. C'est pour le père. C'est pour les petits amis. C'est très important. Le premier développement d'intelligence, c'est le sourire. Le second développement d'intelligence, c'est la parole, le langage maternel. Alors, c'est un des gros problèmes d'aujourd'hui, de voir que la langue maternelle tend à disparaître pour être une langue qui vient uniquement de la télévision, du audiovisuel. Et c'est vrai, ça, l'aspect affectif tend à disparaître. Et alors la parole devient une parole qui n'est plus une parole entièrement humaine. On coupe l'intentionnalité de la parole de ce contexte affectif, qui sûrement fantastique. On garde le silence pour penser plus qu'on parle. C'est un des aspects qu'on pourrait développer aujourd'hui. Parce que notre société parle beaucoup plus qu'elle ne pense. Le vacarme énorme de notre société. Alors là, il y a un déséquilibre. Il faut comprendre le développement de l'intelligence, le sourire, la parole, l'écriture. Puis ensuite, dans la parole, la grammaire, la rhétorique, puis toutes les sciences multiples. Il faudrait avoir l'ordre de ces sciences. Si on voulait vraiment éduquer d'une façon profonde, il y a un ordre génétique qu'il faut respecter. Et cet ordre génétique qu'il faut respecter, c'est justement de comprendre comment l'intelligence humaine s'éveille et comment l'abstraction est nécessaire. Parce qu'il y a une certaine éducation qui veut supprimer l'abstraction. Et ça, c'est très dangereux. Et ça existe, hein. Il faut être attentif à ça. Parce que l'intelligence humaine se développe par un moyen d'abstraction. Les mathématiques, c'est le développement très abstrait. Et c'est pour ça que c'est le développement mathématique, c'est le développement, je dirais, le plus immédiat de l'intelligence humaine. Le plus code naturel. Les mathématiques et l'art. Mais l'art a une abstraction tout à fait différente des celles des mathématiques. Et ce sera intéressant de regarder la diversité pour voir tout de suite chez la personne, chez l'adulte, s'il est fait pour l'art ou les mathématiques. Avec les mathématiques, c'est la science. Avec l'art, c'est un autre développement. Je crois qu'on devrait être très attentif à ça. Et maintenir chez certains le double développement. Tout cela dépend d'un milieu affectif. Puisqu'on peut distinguer enseignement et éducation. L'éducation, c'est l'aspect affectif. L'enseignement, c'est du côté intellectuel. On peut les distinguer, mais il ne faut pas les séparer. Parce que la personne humaine implique un développement affectif et un développement de l'intelligence. Si on avait uniquement un développement affectif, on aurait des monstres. Si on avait uniquement un développement intellectuel, on aurait d'autres monstres. Le monstre, c'est celui qui développe sans harmonie l'affectivité et l'intelligence. Alors qu'au contraire, la sagesse et la personne humaine, c'est un équilibre entre les deux. Et une harmonie, une proportion entre les deux. Ça me semble tout à fait élémentaire comme principe. Mais fondamentaux, quand je dis élémentaire, c'est-à-dire extrêmement important. Parce que tout l'équilibre est là. Au début, le gosse est malléable et on forme la personne humaine. Donc celui qui l'instruit doit comprendre ce qu'est la personne humaine. Celui qui l'éduque également. L'équilibre entre l'aspect du développement de l'intelligence et du développement de la volonté, autant que possible, harmonie chez ceux qui sont responsables de ces deux formations. Parce que s'il y a une dissociation entre les deux, eh bien, ça fera nécessairement une dissociation dans le développement de l'affectivité et de l'intelligence chez celui qui subit l'enseignement. C'est très important, ça, vous voyez. Les parents ne doivent pas critiquer les maîtres, et les maîtres ne doivent pas critiquer les parents. S'ils ne sont pas d'accord, ils le disent directement. Mais il ne faut pas critiquer. Parce que dans la tête de l'enfant, ça brise. Et si ça brise, ça empêche la coopération. Et s'il n'y a plus de coopération au niveau de l'instruction, il n'y aura plus de coopération au niveau de l'éducation. Donc là, il y a un très gros problème. Alors, tout le problème, c'est de voir quelle est la place de l'État du côté de l'instruction. Du côté éducatif, c'est net. doit permettre à l'éducation des parents d'aller le plus loin possible, en plaidant et en sauvant la liberté de l'enfant. À partir d'un certain âge, à partir 14 ans, 18 ans, ou 17 ans, puis après l'État n'a plus qu'un rôle uniquement, j'allais dire, d'interdire certaines choses par rapport au bien commun, d'interdire les vols et les assassinats, d'interdire les viols, d'interdire tout ce qui est anarchique par rapport au bien commun. Alors c'est une fonction défensive avant tout. Tandis qu'il peut y avoir, alors ça c'est le problème extrêmement délicat, de l'école dite laïque, de l'école qui relève du gouvernement. Quand on prend des écoles maternelles, l'aspect éducatif est nécessairement présent. Et supprimer cet aspect éducatif, c'est léser l'enfant. Et donc on n'a pas le droit. Je crois que ça existerait jusque 15-16 ans. Il me semble. Ça se modifie du reste comme date, forcément. Et puis ça dépend des États, ça dépend des pays. Mais ensuite, l'instruction doit être regardée pour elle-même, sans éducation. Un minimum. C'est plutôt une discipline qu'une éducation. Une discipline requise pour qu'on puisse enseigner. Si un chahut généralisé, c'est difficile d'enseigner. Si une révolte consciente, organisée, c'est difficile d'enseigner. Donc, à ce moment-là, on est devant une situation limite. La situation limite est très intéressante parce qu'elle oblige de remettre, je dirais, les exigences propres de l'éducation et de l'enseignement. Et bien reconsidérer les exigences propres des deux côtés. Oui, tous ces problèmes sous-jacents, hein. On va faire un cours d'éducation ici, ni d'instruction, de pédagogie, mais c'est simplement situer les problèmes en vue de la formation de la personne. La personne humaine implique le développement de l'intelligence et le développement du cœur. Nous l'avons vu. Et implique la possibilité du développement religieux. Puisque le point de vue religieux est naturel, l'État doit en tenir compte. C'est pour ça que la laïcité, qui est la mise entre parenthèses du point de vue religieux, c'est imaginatif. Donc ça relève d'une idéologie. Et ce n'est pas réel. Il faut appeler un chat, un chat. Et un chien, un chien. Je ne sais pas de quel côté est la laïcité. Si c'est les chiens ou chats, mais ça m'est égal. Le tout c'est de comprendre que un État intelligent n'a pas le droit de mettre entre parenthèses le point de vue religieux. Il doit le respecter et il devrait même le favoriser s'il était intelligent, puisqu'il doit coopérer à la formation de la personne. Je dirais très bien qu'en disant ça, on dit des choses qu'on dira réactionnaires. Ça qui est terrible aujourd'hui. C'est pas une chose réactionnaire, c'est une chose tout simplement qui est regarder la complexité de la personne humaine. Et je crois qu'on n'a pas le droit d'accepter une éducation dite purement laïque. C'est-à-dire en mettant abstraction complète du point de vue religieux. On a le droit uniquement de l'accepter pour un enseignement supérieur. Alors là, oui. On a le droit de l'accepter. Parce que quand un enseignement est supérieur, ça veut dire que les personnes sont déjà formées. Alors on a le droit de leur laisser et de dire, nous nous dans un domaine. On a le droit de se spécialiser dans un domaine. Mais tant que l'éducation est liée à l'instruction, on n'a pas le droit à une laïcité. Là, je crois que c'est très important de comprendre cela, d'en avoir la conviction intérieure. Et de comprendre pourquoi, vous voyez, c'est à cause du problème de la personne humaine. La personne humaine qui applique le point de vue religieux. Essentiellement. Et que l'enfant n'a pas encore découvert, il faut l'aider. Et pas être un obstacle. Tandis que dans la laïcité pure et farouche, comme elle peut exister en France, qui est un phénomène typiquement français. Ça, c'est typiquement français. C'est farouche. Il y a quelque chose de là, de phénomène tout à fait spécial qui montre une erreur très inviscérée, très très profonde, qui provient d'une idéologie. Donc, vous voyez, là, il y a un os qui est très important à bien saisir, difficile à bien limiter. Je crois que l'État devrait favoriser l'aspect religieux, c'est-à-dire aider que cet aspect religieux existe, mais que l'État n'a pas à en prendre immédiatement la direction. Autrement, on tomberait dans le josévisme, où l'État prend la direction du point de vue religieux, et quand l'État prend le point de vue de la direction du point de vue religieux, il fait souvent de très grosses gaffes. Je crois qu'il a en respecté cette attitude en disant « ça, ça dépasse ». Alors vous voyez, c'est là où les rapports entre famille et État ou nation se voient tout de suite. Quelle est la finalité d'une communauté politique? Quelle est la finalité de la famille? Je crois que préciser la finalité exacte de la communauté politique et la finalité exacte de la famille, on restera toujours devant un problème flou et devant des équivoques terribles. Or, préciser la finalité de la famille et de la communauté politique relève de la philosophie. Ça ne peut relever que de la philosophie, ça ne relève pas des sciences humaines. Qui ne voit pas la finalité, donc c'est simple. Alors, au plan philosophique, c'est même le problème philosophique. Vous voyez, le problème philosophique fondamental, c'est la famille. Le problème philosophique, j'allais dire essentiel, c'est les rapports de la famille et de la nation. Je crois que ça, c'est les rapports essentiels. Et on devrait être attentif à ça en premier lieu. Pour la coopération avec l'État. Mais ce n'est pas le point de vue économique qui prime. Ce qui prime, c'est le point de vue de l'éducation. Est-ce qu'on est en face d'un régime qui permet une éducation humaine, mais pleinement humaine, et donc ouverte à diverses modalités, chrétiennes, musulmanes, dans la mesure où les familles musulmanes sont présentes. Alors, précisons, la finalité de la famille, c'est net. Survie de l'espèce humaine, éducation de la personne, je crois qu'on peut dire ça. Je m'exprime, parce que ça c'est important, il faut y réfléchir. La survie de l'espèce, c'est sûr, c'est la famille qui est le lieu pour ça, et l'éducation. l'économie n'est plus premièrement familiale, on met en lumière ce qui est le plus important, c'est le point de vue de l'éducation. Mais la famille n'est pas tout dans le point de vue de l'État. Alors la finalité de la nation.
Et donc, le point de vue de l'État qui doit tenir compte du patrimoine
culture doit tenir compte de cela. C'est ça la révolution culturelle. C'est tenir compte du patrimoine d'un pays. La Chine a pris conscience de son patrimoine. Et l'Europe devrait prendre conscience de son patrimoine. Et prendre conscience de son patrimoine, c'est de comprendre que le patrimoine, pour nous, au point de vue de la culture chrétienne, c'est un fait. Alors, on n'avait pas le droit de ne pas tenir compte. Quand Malraux voulait que tous les monuments artistiques soient remis à neuf, puisque c'est ce qu'on a dit, Malraux sera bien reçu au ciel, puisque il a remis combien d'églises, oui, en tant que patrimoine artistique. Mais oui, c'était honnête comme patrimoine artistique de dire l'État doit venir en aide au Saint-Thomas, ça tombera. Le peuple chrétien n'est plus suffisamment actif pour le porter, l'État doit venir à son aide, parce que ça fait partie d'un patrimoine. Patrimoine de culture artistique. La science est la même chose, c'est un autre patrimoine. L'art médical, c'est aussi un patrimoine. Donc tout le patrimoine doit être gardé pour permettre le bien-être. Ah, vous voyez comme c'est difficile de jauger ce que c'est que le patrimoine de l'Europe. Le patrimoine d'un pays. Et l'État n'a pas le droit de ne pas regarder ça, ça fait partie du bien-être. Et ce patrimoine demande d'être renouvelé, gardé et renouvelé. Pour être gardé, il doit être renouvelé, conservare, rénovare. Il doit être renouvelé constamment pour pouvoir être gardé. Et la personne humaine doit se développer dans ce point de vue-là. Donc là, il y a un très très gros problème, très important, le problème que l'État doit regarder sa finalité propre, qui est le bien-être de la personne. Et le bien-être de la personne implique non seulement le point de vue de la santé, le point de vue du corps, mais le point de vue de l'âme, le point de vue spirituel, le point de vue de la personne humaine. Vous voyez que là, tous les conflits peuvent exister. Parce qu'il y a manière et manière de regarder ce patrimoine. Il y a manière et manière de le rénover. Et c'est là où tous les conflits peuvent exister. Entre la famille et l'État. Entre les individus et l'État. Il n'y a pas de religion d'État au sens absolu. Il n'y a pas de religion d'État. Il y a la constatation que la majorité des citoyens sont chrétiens, sont musulmans. L'État doit regarder cela et doit tenir compte de cela parce que c'est l'inventaire de son patrimoine. Alors il peut se faire qu'on ait un patrimoine chrétien et que le nombre des musulmans augmente. Bon, l'État devra se poser la question. Ces musulmans qui augmentent ont-ils suffisamment de patrimoine pour pouvoir vivre? Je crois que c'est le devoir d'un État. Il n'impose pas. Mais le point de vue politique dépasse immédiatement chrétien. À la différence du point de vue éthique. Il dépasse immédiatement chrétien. Il doit regarder le patrimoine. Il doit le garder, il doit permettre donc un développement de ce patrimoine, mais ce n'est pas immédiatement confessionnel. La prudence politique du gouvernement n'est pas premièrement une prudence religieuse. Elle est une prudence politique. Tandis que la prudence personnelle est immédiatement religieuse. C'est la très grosse différence. Mais on doit gérer un patrimoine chrétien en respectant cela. Si ce patrimoine est chrétien, on doit doit le respecter. On doit le respecter, mais le respecter, ça veut dire lui permettre de progresser. C'est là la difficulté. Parce que faire des églises, des musées, ce n'est pas respecter le patrimoine. Faire de Sainte-Sophie un musée, ce n'est pas respecter le patrimoine. Le patrimoine demande plus. Parce que l'église n'était pas faite pour ça. Donc c'est un manque de respect par rapport à l'usage de ça. Là, il y a une herméneutique, vous voyez, qui est interprétée. En disant, ça a changé, donc maintenant, allons faire ça. C'est très délicat, toutes ces choses-là. Mais on serait fonctionnaire d'État par rapport aux monuments historiques ou pas, par rapport au patrimoine. Et on vous demanderait de dire, écoutez, on va faire que telle église qui vraiment, il n'y a plus de curé, il n'y a plus de prêtre. On ne dit jamais la messe. Ou une fois l'an. Je vous demande de transformer cette église en Bourgogne, en un lieu qui sera utile à tous les vignerons. Où on pourra être lieu de dégustation du vin. Ça existe. Je donne un exemple que j'ai vu. Si celui qui est le préfet du lieu est chrétien, a-t-il le droit d'accepter ça? Mais problème moral, politique et moral. Bon, on ne peut pas traiter ça in abstracto, mais on doit se poser la question. Exactement comme ce qui se fait actuellement, vous savez bien, c'est une question constante. Parce qu'il y a les évêques et l'aspect politique. Si de fait les églises, qui la plupart du temps, dans beaucoup d'endroits, appartiennent à l'État, n'appartiennent pas à l'Église, c'est un bien d'État, ne sont plus en usage, l'État s'y met, quoi, ça sert à rien. Si elle n'a aucun cachet artistique, ce qui existe pour beaucoup d'églises de France, elles ont été construites à une mauvaise époque. À ce moment-là, on dit, mais à quoi ça sert, il vaut mieux les détruire. Napoléon en faisait des granges, ou des étables, ou des écuries. Puisque des très belles églises, la chapelle d'Avignon, des papes, changé en écurie. L'abomination de l'abomination.
Oui.
Voilà, exactement. C'est la même chose. L'État peut faire ça. Il y a eu des exemples frappants. Ça s'est passé. Qui ont fait parler beaucoup. C'est le problème, c'est pour ça que c'est pas commode du tout, il faut pas. On a un jugement à avoir là-dessus, au point de vue prudentiel. On est citoyen. On n'a pas dit, oh ça ne me regarde pas. Parfaitement, ça vous regarde. Puisque vous faites un acte politique en votant. Vous pouvez dire, moi je suis complètement en dehors, je ne. Très bien, là c'est autre chose. Il faudrait voir dans quelle mesure vous avez le droit de le faire. C'est toujours très très délicat. Je comprends que ça puisse se faire dans certains cas, mais si on vote, on doit tenir compte de ce point de vue du patrimoine. On doit tenir compte que ce patrimoine est un patrimoine religieux, chrétien. Et que ce patrimoine, dans quelle mesure on peut le conserver? Dans quelle mesure on peut le détruire? Dans quelle mesure on peut le faire modifier, passage d'une église chrétienne, catholique, à un lieu religieux du mosquées. Puisque les musulmans augmentent en France et deviennent la seconde religion. Donc ça va se poser, c'est évident. Et ça se posera avec beaucoup d'acuité. Alors les gens sont scandalisés. Attention. Avez-vous le droit de maintenir une église qui n'est plus un lieu de culte et d'interdire à des gens qui ont leur religion de ne pas avoir lieu de culte? Au nom de quoi vous faites ça? Le problème se pose, il faut le voir politiquement, c'est un problème politique. Un problème politique, de conscience politique, oui bien. Donc, il y a là un affrontement très très important aujourd'hui à voir ça. Et on doit le voir si on est un chrétien. On conseillera des hommes politiques. Et les hommes politiques vous poseront ces problèmes-là. Surtout ceux qui sont du côté du patrimoine. Alors c'est très facile quand il s'agit, par exemple, le Toronnais. Bon, l'État a la main dessus. Peut-on demander que le Toronnais redevienne un lieu de culte? C'est non, que c'est différent, c'est propriété privée. Puisque ça appartient à l'Hérens. Donc c'est différent. À la propriété privée, il a sa responsabilité. Mais c'est pour toute quantité d'églises, on doit toujours se poser la question, à qui ça appartient, l'église ou l'État? Est-ce que c'est encore un lieu de culte? Est-ce que ce lieu de culte signifie encore quelque chose? Alors, à côté de l'église, il y a le presbytère. C'est plus facile, le presbytère. Mais il y a le presbytère. Alors, le presbytère était loué. Loué. Je crois qu'il était pratiquement sans location. C'était le prêtre qui l'avait. Il n'y a plus de prêtre. Alors, les presbytères, qu'est-ce qu'on va en faire? Comme il y a des gens qui demandent une location, ça va tenir un lieu pour d'autres, mais c'est pas y est. Donc, c'était un lieu réservé aux ministres du culte. Donc il y avait quelque chose qui était là. Donc ça, c'est tout le problème du patrimoine. Je crois qu'aujourd'hui, c'est difficile de bien préciser ce que c'est que le patrimoine, mais c'est un problème très important parce que c'est le milieu pour le bien-être. C'est le milieu, ça fait partie de l'aspect de la culture. Et ceux qui sont chargés du patrimoine, on voit très bien qu'il y a tout un aspect. Je vous dis, Malraux a mis ça très en lumière, et depuis Malraux, ça a été repris très fort comme quelque chose d'important. Et c'est vrai, pour un vieux pays comme l'Europe, c'est très important le patrimoine. Et c'est réactuer le patrimoine, c'est permettre de faire de l'Europe un pays de musée, n'est-ce pas, pour la culture. On n'a pas le droit de supprimer ça. Donc pour le bien, mais alors, la relation qui existe, et c'est ça que je reviens, la question de la personne, l'État doit permettre des personnes avec l'aspect religieux, virtuellement, pas immédiatement. Le bien commun de l'État, c'est de former des citoyens qui sont des personnes humaines. Capable de vivre entre elles dans un certain bien-être. Donc d'éviter toute anarchie, d'éviter toute réaction violente, anarchique, qui est de l'ordre. C'est un bien-être qui implique le point de vue de l'ordre. Ça, l'État, c'est pas directement la formation de la personne dans son sommet, mais c'est de permettre le conditionnement de la personne humaine de pouvoir s'exercer pour atteindre sa fin. L'État ne regarde pas la finalité immédiate de la personne, mais regarde son conditionnement, que la personne humaine puisse vivre et avoir une certaine harmonie avec les autres personnes humaines. Je crois que c'est ça la finalité de l'État. C'est le bien-être. Ce sera ce qu'on va appeler le bien commun. Et qui dit bien commun, dit le bien du conditionnement humain. C'est pas la finalité. C'est pas un bien personnel, c'est un bien commun. Alors, jusqu'où va ce bien commun au point de vue du conditionnement? Je crois que c'est là le problème au plan philosophique, pour voir les interférences entre le point de vue de la famille, qui regarde la personne dans sa propre finalité religieuse. Évidemment, une famille athée ne voudra pas regarder ce point de vue religieux. Mais ça, c'est autre chose. La famille demande d'être un milieu religieux. Et donc d'atteindre le point de vue de la personne dans sa finalité propre. Tandis que l'État ne demande pas.